Voilà, c'est la première fois que j'utilise ma tablette ce matin. Je me suis dit, on va faire un essai. Alors, ce matin, c'est... Je ne prêche pas ce que je veux, ce matin, c'est message imposé. Hein? C'est... On ne fait pas ce qu'on veut ici. Hein? C'est un message à thème. Et le message à thème, vous savez qu'actuellement, nous sommes dans le livre des psaumes. Et donc, les psaumes, ce sont des prières. Des prières qui ont été écrites par ce qu'on appelle des psalmistes. Nombreux psaumes ont été écrits certainement par le roi David, d'autres psaumes ont été écrits par d'autres hommes. Bref, c'était tous des chantres. Des chantres, c'était des personnes qui avaient un rôle particulier ou qui jouaient un rôle particulier dans le cadre du culte dans l'Ancien Testament. Certains d'entre eux étaient peut-être des sacrificateurs. En tout cas, ils avaient accès à ce qu'on appelle à la présence de Dieu. Ils étaient en lien direct avec le temple et ils ont écrit de nombreuses prières, de nombreux poèmes. Alors la particularité de ces poèmes, c'est que ils ont tous été écrits dans un contexte particulier, avec un sens premier. Et je pense que lorsqu'on étudie un petit peu les psaumes et qu'on regarde leur message, il est bon d'essayer de revenir ou d'essayer de chercher à savoir quel a été le sens premier. Et pas forcément d'essayer de mettre derrière nos propres interprétations. Et c'est parfois difficile puisque les psaumes ont été écrits pour certains, pour les plus anciens, certainement il y a 3000 ans. Donc il y a un décalage culturel entre ce qui a été écrit et ce que nous vivons aujourd'hui. Et souvent lorsque nous voyons certains états d'âme des psalmistes, nous allons interpréter ces états d'âme avec tout le bagage de la psychologie que nous avons depuis environ un siècle, et la psychanalyse, etc. Mais nous oublions que toutes ces conceptions de psychologie, de psychanalyse et autres, de sentiments, ont toujours existé, mais n'étaient peut-être pas interprétées ou vécues de la même manière à l'époque. Alors le psaume qui nous intéresse ce matin, qui a été retenu, c'est un psaume, c'est le psaume 69. Le psaume 69 est un des psaumes, comme le soulignent la plupart des commentateurs, qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Un psaume qui, pour certains, pourrait être qualifié de psaume messianique, dans le sens que il s'applique au Christ. Maintenant, on pourrait pas dire que c'est vraiment un psaume messianique, parce que tout le psaume n'est pas prophétique. Et tout le psaume ne concerne pas la personne du Christ, puisqu'il est question ici d'un homme, d'un psalmiste qui à un moment donné va se reconnaître pécheur. Or le Christ, nous le savons, n'a pas eu besoin ou n'était pas pécheur. Et par conséquent, il y a bien des aspects de ce passage qui ne s'appliquent pas au Christ, mais néanmoins, il a aussi ce qu'on appelle un aspect prophétique. Mais j'aimerais simplement faire remarquer une chose. Lorsque le psalmiste, apparemment ici David, l'a écrit à l'époque, il l'a écrit pas avec la pensée du Christ. Il n'avait pas les lunettes que nous avons aujourd'hui lorsque nous lisons ce psaume, et nous allons voir qu'il y a des passages qui sont cités dans le Nouveau Testament, et nous allons nous dire, ah ben tiens, ça se rapporte au Christ. David n'avait pas ces lunettes, il n'avait pas cette conscience, il ne savait pas qu'un jour le Messie viendrait. Il a prononcé ces paroles parce qu'il était dans la présence de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, mais il a dit des choses qui le concernaient lui, mais en même temps qui étaient prophétiques, c'est-à-dire qui annonçaient quelque chose ou quelqu'un qui un jour devrait venir et accomplir un acte particulier. Donc cela aussi, nous devons nous en rappeler. Alors le psaume 69, je vais le lire, il est assez long, 37 versets. Et je vais le lire dans la traduction que j'aime bien pour étudier la Bible, qui est la traduction de la Tob. Alors, du chef de chœur sur les lys de David. On ne sait pas trop ce que signifie cette expression sur les lys et à quoi elle fait référence. Dieu, sauve-moi. L'eau m'arrive à la gorge. Je m'enlise dans un bourbier sans fond et rien pour me retenir. Je coule dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, j'ai le gosier en feu, mes yeux se sont usés à force d'attendre mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans motif, ils sont puissants ces destructeurs, qui m'en veulent injustement. Ce que je n'ai pas volé, puis-je le rendre ? Verset 6. Dieu, tu connais ma sottise, et mes fautes ne te sont pas cachées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je ne sois pas la honte de ceux qui espèrent en toi, ni le déshonneur de ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est à cause de toi que je supporte l'insulte, que le déshonneur couvre mon visage, et que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, le zèle pour ta maison m'a dévoré. Ils t'insultent, et leurs insultes retombent sur moi. J'ai pleuré, et j'ai jeûné. Cela m'a valu des insultes. J'ai revêtu le sac du deuil. Je suis devenu leur fable. Les gens assis à la porte jasent sur moi, et je suis la chanson des buveurs. Seigneur, dit-il au verset 14, voici ma prière. C'est le moment d'être favorable. Dieu dont la fidélité est grande, réponds-moi car tu es le vrai salut. Arrache-moi à la boue, que je ne m'enlise pas, que je sois arraché à ceux qui me détestent et aux eaux profondes, que le courant des eaux ne m'emporte pas, que le gouffre ne m'engloutisse pas, que le puits ne referme pas sa gueule sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande miséricorde, tourne-toi vers moi et ne cache plus ta face à ton serviteur. Je suis dans la détresse, vite, réponds-moi. Viens près de moi, sois mon défenseur, j'ai des ennemis, libère-moi. Verset 20, tu me sais insulté, déshonoré, couvert de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur et j'en suis malade. J'ai attendu un geste, mais rien. Des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du poison dans ma nourriture. Quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. Que leur table devienne pour eux un piège et pour leurs amis un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Fais-leur sans cesse ployer les reins. Répands sur eux ta fureur. Que ton ardente colère les atteigne. Que leur campement soit ravagé. Que nul n'habite sous leur tente. Car celui que tu avais frappé, ils l'ont persécuté. Ils comptent les coups subis par tes victimes. Impute-leur faute sur faute. Qu'il n'ait plus accès à ta justice, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Et moi, humilié et meurtri, ton salut, Dieu, me mettra hors d'atteinte. Je pourrai louer le nom de Dieu par un chant et le magnifier par des actions de grâce. Voilà qui plaît au Seigneur, plus qu'un bœuf, qu'un taureau avec cornes et sabots. En voyant cela, les humbles se réjouissent. À vous qui cherchez Dieu, à vous, longue vie. Car le Seigneur exauce les pauvres, il ne rejette pas les siens quand ils sont captifs. Louez-le, cieux, terre, mer et tout ce qui y grouille. Car Dieu sauvera Sion et rebâtira les villes de Juda. On y habitera, on la possédera, la race de ses serviteurs l'aura pour patrimoine et ceux qui aiment son nom y feront leur demeure. Amen. Différents titres, j'imagine, sont donnés à ce psaume dans votre Bible. Souvent, on va trouver comme titre quelque chose dans le style soit « persécution » ou alors « sauve-moi ». Eh bien, moi, le titre que j'ai donné, ce sera là le thème de mon message de ce matin, « Comment réagir face aux fausses accusations ?» Parce que c'est de cela dont il est question dans ce psaume. Ce psaume est ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui décrit de manière prophétique la vie de Jésus, son ministère, sa mort. Mais avant d'être un psaume messianique, ce psaume, c'est d'abord l'histoire d'un homme. David, apparemment, d'après ce qu'il nous est dit, au verset 1. Et ce psaume nous parle non pas d'une situation fictive, ce psaume, apparemment, nous parle d'une situation bien réelle. Nous sommes ici en face de qui ? Nous sommes ici en face, ou avec plutôt, un homme qui souffre. Et qui souffre précisément pourquoi ? Il souffre parce qu'il est faussement accusé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver accusé, mais accusé à tort ? Vous n'avez rien fait, apparemment. Et voilà qu'on vous accuse pour quelque chose. Plus que cela, en tout cas c'est ce que cet homme a vécu, il n'a pas simplement été accusé, il a été littéralement persécuté. On cherche à se débarrasser de vous, eh bien c'est ce que le psalmiste a vécu, c'est aussi ce que Jésus a vécu, les religieux, nous le verrons tout à l'heure, qui ont cherché à se débarrasser de lui. Comment réagir face aux fausses accusations ? Quelle devrait être ou quelle pourrait être, à la lecture de ce psaume qui a été écrit il y a bien longtemps, notre réaction. Comment est-ce que certains croyants de l'Ancien Testament, en l'occurrence David, mais d'autres croyants, parce que après ce psaume a été repris par les Juifs, hein, certains pensent que c'est même devenu une sorte de psaume collectif, qui collectivement a été repris par la nation juive lorsque, par exemple, le peuple juif s'est retrouvé en exil. Il prenait ce psaume et il l'a prié parce qu'il se retrouvait dans une situation, il y avait là, pour eux, semble-t-il, une certaine injustice. Eh bien, c'était un psaume qui était prié, qui était reprié régulièrement. Eh bien, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Mais d'abord, penchons-nous un petit peu sur la situation de cet homme. Moi, ce qui m'a frappé en regardant un petit peu ce texte, en essayant d'en comprendre le sens, chose qui n'est pas évidente, puisque nous sommes 3000 ans après, c'est que nous voyons une certaine similitude entre ce psaume et l'histoire du prophète Jérémie. Jérémie, rappelez-vous, s'est retrouvé à deux reprises dans une citerne. Cela nous est relaté au chapitre 38 du prophète Jérémie. Une première fois, il s'est retrouvé dans la citerne lorsqu'il est parti et il a voulu régler une affaire familiale. Et puis une deuxième fois, il s'est retrouvé dans la citerne parce qu'il avait prophétisé des paroles qui apparemment ne plaisaient pas. Et donc, il s'est retrouvé dans cette citerne. Jonas aussi s'est retrouvé dans une situation plus ou moins similaire. Alors, ce n'était pas dans une citerne, lui, c'était dans le ventre d'un poisson, mais il y a là une certaine similitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Jérémie et puis du psalmiste, on creusait des citernes. Des citernes qui étaient creusées, bien sûr, dans la terre, parfois aussi dans la roche. Des citernes qui, pour certaines aussi, d'après ce qu'on a pu découvrir, étaient parfois recouvertes aussi, en tout cas juste autour d'une certaine forme de ciment à l'époque, et qui avaient pour objectif, bien entendu, eh bien, d'avoir de l'eau. Et puis parfois, ces citernes aussi, on le voit à quelques reprises dans les Écritures, étaient utilisées pour jeter des personnes. Alors quand il n'y avait pas d'eau, ça allait. Mais là, la situation est bien plus dramatique, puisque notre homme se retrouve justement dans une de ces citernes, et il se trouve dans une situation dramatique, puisque le texte précise au verset 2 qu'il a de l'eau jusqu'à la gorge. Littéralement, le texte hébreu dit « l'eau m'entre dans la gorge ». L'eau m'entre dans la gorge. Vous imaginez, vous êtes en train de nager, vous êtes en train de boire la tasse et vous n'avez pas de point d'appui. Imaginez un petit peu la situation de cet homme. « Au fond, dit-il, c'est de la boue ». Par conséquent, dans cette citerne, il n'y a pas d'appui non plus pour se tenir, donc pas de possibilité de pouvoir récupérer. Un homme qui est ballotté, un homme qui se trouve dans une situation inconfortable, un homme qui est en danger, qui est au bout. Le verset 4 nous dit qu'il crie, et il a même tellement crié à Dieu qu'il doit être enroué, que ses cordes vocales sont atteintes. Donc c'est un homme qui s'est épuisé à force de faire appel à Dieu, un homme qui est au bout du rouleau, un homme qui, pendant tout ce psaume, attend l'intervention et le secours de Dieu. Alors, à la lecture de ce psaume et des quatre premiers versets en particulier, on peut se poser la question, est-ce que cet épisode a réellement eu lieu ? Parce que si cet épisode a eu lieu et que ce psaume a été écrit par David, comme cela est mentionné en haut, eh bien on peut se poser la question à quel épisode de la vie de David ferait référence ce psaume ? Et on ne voit pas trop. Certains pensent effectivement que ce psaume a réellement ou s'est réellement passé tel que les choses sont décrites. Et effectivement, on est en droit de le penser. Et puis d'autres pensent que l'eau, la boue sont des images pour évoquer une situation sans issue. Et en effet, dans d'autres passages, et en particulier dans les psaumes, on voit parfois que l'eau, la boue sont utilisées de manière imagée, symbolique. C'est ce qu'on appelle une métaphore, une image qu'on va utiliser pour expliquer quelque chose. Nous-mêmes, lorsque nous sommes dans une situation difficile, sans issue, nous allons dire, nous sommes dans la... Voilà. Non, parce que vous pensez, hein. Non. On est mal barré, on va dire. Voilà. Hein. Alors, comme je disais, si c'est littéral, on ne voit pas trop à quel épisode de la vie de David ferait allusion cet épisode. Maintenant, je pense que les deux interprétations sont tout à fait possibles. Et on peut y voir ici une situation réelle. Moi, je pense que ça fait référence à une situation réelle. Et puis, en même temps, on peut y voir aussi, puisque ce psaume a été repris et prié par d'autres personnes, eh bien, le désarroi du psalmiste, ou alors notre propre désarroi, nous-mêmes, lorsque nous sommes injustement accusés, lorsque nous-mêmes, nous nous retrouvons dans une voie sans issue. Se pose la question de savoir, mais de quoi le psalmiste est-il accusé ? Qu'est-ce que ses adversaires ont contre lui ? Pourquoi est-ce qu'il accuse ? La réponse nous est donnée à la fin du verset 5. La Tob dit cela ou traduit sous forme interrogative, « Ce que je n'ai pas volé, puis-je le rendre ?» Ou alors, la Bible du Semeur, « Je dois restituer ce que je n'ai pas pris. » On l'accuse de quoi ici ? On l'accuse, d'après ce que j'ai compris, d'avoir commis un vol. Alors on ne sait pas trop de quel vol il s'agit et les commentateurs de manière générale ne vont pas trop s'étendre sur le sujet. Certains pensent qu'il s'agit peut-être d'un vol en lien avec un objet sacré, puisque cet homme a un zèle, ça nous est dit, dévorant au verset 10 pour la maison de Dieu. Donc c'est un homme qui se tient régulièrement David dans la maison de Dieu et certains peut-être, c'est une supposition, une interprétation pense peut-être qu'il aurait volé un objet sacré ou alors, en tout cas, c'est quelque chose de grave parce qu'il est gravement accusé et ceux qui l'accusent, notez-le, sont des personnes proches, des personnes qu'il voit régulièrement, des personnes de son entourage, des hommes avec qui il travaille, des personnes à qui il n'a rien fait puisque le texte précise « il me déteste » sans motif. Donc c'est-à-dire là, il n'y a pas de raison d'agir ainsi. Ces personnes, nous est-il dit au verset 5, sont puissantes. Dans quel sens faut-il comprendre qu'elles sont puissantes ? Il faut comprendre ça dans le sens que ce sont des personnes qui ont de l'influence, des personnes qui ont une certaine aura, des personnes apparemment qui devaient elles aussi travailler dans le temple, puisque ici il est question de quelque chose qui a eu lieu ou qui a un lien directement avec le temple, avec la maison de Dieu, des personnes qui sont proches de David, et elles usent de leur position pour accuser le psalmiste. Leurs accusations, je l'ai dit et je le redis, sont graves. Alors face à cette fausse et grave accusation, l'attitude de David est exemplaire. Au verset 6, que dit-il ? Au verset 6, il dit ceci, « Dieu, tu connais ma sottise », ou alors comme le proposent d'autres traductions, d'autres vont parler du fait que je me suis égaré. « Dieu, tu connais ma sottise et mes fautes ne te sont pas cachées ». Cet homme reconnaît qu'il n'est pas parfait. Donc ce verset déjà ne s'applique pas à la personne du Christ, puisque le Christ, lui, nous le savons, était parfait. Mais cet homme reconnaît qu'il n'est pas parfait, cet homme reconnaît qu'il a commis des fautes, cet homme reconnaît, comme nous aussi dans notre vie, eh bien, que nous ne sommes pas parfaits. Et ça c'est important, parce que lorsqu'on souffre d'injustice, lorsqu'on est accusé à tort, et cela peut nous arriver par quelqu'un, et même souffrir à cause de cela, nous ne sommes peut-être pas responsables, effectivement, des accusations qui sont portées contre nous, et ces accusations peuvent être totalement fausses. Mais nous ne devons jamais oublier que, même si ces accusations sont fausses contre nous, nous restons des hommes, nous restons des femmes, nous restons des hommes et des femmes qui sont fragiles et qui pouvons désobéir à Dieu, nous restons, bref, pécheurs. Alors en disant cela, David, d'une certaine part, dans sa prière, parce que ici le psaume 69, c'est une prière qu'il adresse à Dieu, David est en train de s'humilier devant Dieu. Il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Et peut-être même que d'une certaine manière, il reconnaît que son épreuve n'est pas totalement imméritée. Parce qu'il faut savoir que dans la pensée de l'Ancien Testament et même un peu du Nouveau Testament, il y a toujours un lien de cause à effet entre une épreuve, entre un malheur, entre une maladie et entre le péché d'un individu. Alors, il n'y a pas un lien forcément direct. Mais peut-être qu'à travers cela, en tout cas, c'est ce qui laissera entrevoir à une ou à deux reprises dans ce psaume, David dit, eh bien, si je me retrouve dans cette situation, peut-être que c'est Dieu qui veut me punir. Peut-être, dit-il. A-t-il raison ou non? C'est une autre question. En tout cas, cet homme souffre, et il souffre cruellement des accusations. Au verset 9, il est question de quoi? Il est question de ses amis, de ses parents, qui le rejettent. Et ces accusations ont détruit, d'une certaine manière, sa vie, puisque même ses plus proches l'ont rejeté. Il est devenu, nous est-il dit, au verset 12, la risée des gens. Et il nous est dit que ceux qui se tiennent à la porte de la ville, et ceux qui se tenaient à la porte de la ville en ce temps-là, c'était qui? C'était les notables. C'était ceux qui avaient de l'argent, c'était ceux qui avaient de l'influence. Il nous est dit que des notables jusqu'aux alcoolos, hein, enfin jusqu'aux buveurs, aux alcooliques, tous se moquent de lui. Et même les alcooliques font des chansons sur lui. Et lorsqu'ils sont bien éméchés, enfin plus que cela, voilà, ils vont chanter des chansons et ils vont se moquer de lui. Imaginez un petit peu la situation, alors que cet homme est connu, David, alors que cet homme a une notoriété. Voilà que tout le monde, à cause de ses fausses accusations, eh bien, il souffre de cela, des moqueries de son entourage, de ceux qui l'entourent, alors que, bien sûr, c'est profondément injuste. Mais au fait, on n'a pas vu ça. Pourquoi ces hommes le détestent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ont agi de la sorte à son égard? Cela apparaît au verset 10. Au verset 10, il est question du zèle pour la maison de Dieu qui le dévore. Mes chers, ces hommes sont jaloux. Ces hommes sont jaloux. Peut-être de la main de Dieu, qui justement est sur David, ils sont jaloux parce qu'ils aiment Dieu plus qu'eux, parce qu'ils servent Dieu avec un zèle, le texte est fort, le zèle de ta maison me dévore. C'est un homme qui a une passion pour Dieu, un homme qui a une passion pour la maison de Dieu, un homme qui a une passion, et cela correspond bien au profil de David, pour la personne de l'Éternel. Ses pensées sont tournées en permanence vers Dieu. En tout cas, c'est une cause spirituelle qui va déclencher une telle haine et ses fausses accusations. Peut-on imaginer un instant que notre amour pour Dieu, que notre zèle à le servir, puisse susciter de la haine, de la jalousie, de la méchanceté? Vous me direz oui, de la part de personnes qui ne sont pas croyantes ou qui sont opposées vraiment à la foi chrétienne, comme c'est le cas dans notre pays parfois ou dans d'autres pays, on peut le comprendre. Mais de la part de croyants, de la part de proches qui étaient avec lui dans le temple, d'hommes et de femmes, enfin d'hommes ici plutôt, qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, difficile de concevoir une telle chose. C'est pourtant une réalité biblique, voyez-vous, que nous rencontrons à plusieurs reprises dans les Écritures. Je ne vais pas citer plusieurs cas, mais j'aimerais simplement citer un cas qui correspond bien, ou plutôt un cas qui... ou une personne qui incarne toutes les autres, c'est le Christ. Contrairement au psalmiste, lui, je l'ai dit tout à l'heure, était 100% juste. Il n'avait pas besoin de dire « tu connais mes sottises hein, » ou alors « tu connais mes égarements », il n'en a pas eu. Il n'a jamais commis une faute. Et pourtant, nous savons que lorsque Jésus a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans ou 31 ans, on ne sait pas trop, eh bien, il va rencontrer d'opposition. L'opposition qui va surgir de la part de qui, dites-le-moi? Surtout et avant tout de la part des religieux. Des scribes, des pharisiens, de ceux qui étaient censés connaître les écrits sacrés, de ceux qui étaient censés reconnaître dans la personne de Jésus le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, celui qu'on attendait, qui viendrait délivrer Israël, eh bien c'est de leur part qu'il va rencontrer des accusations et sans cesse dans les évangiles, on ne va pas citer tous les versets, le Christ sera faussement accusé. Il va être bafoué. Il va être insulté. En croix, eh bien, lorsqu'il sera en croix, en train d'expirer, de souffrir, on viendra encore, on l'accusera, on se moquera encore de lui. Il sera accusé faussement. Il va être condamné sans motif. Il n'y a pas de motif valable dans les évangiles à la condamnation du Christ. C'est du pipeau, c'est une mascarade. Bien sûr, derrière cela, l'apôtre Paul le dira qu'il y avait quelque chose de plus grand, mais lorsqu'on lit juste les évangiles, et si on n'a pas le reste des écrits de la Bible, et en particulier de Paul, c'est une mascarade. On veut se débarrasser de lui. Et on dépêche, et on expédie, vite fait, son procès. pour qu'on n'en parle plus, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tort et qu'ils accusent injustement. Il est abandonné de tous et il sera même abandonné, d'après ce que nous dit le texte biblique, lorsqu'il sera sur la croix de Dieu. Derrière toutes ces accusations, il y avait, comme pour David, comme pour l'apôtre Paul, qui lui aussi connaîtra ce genre de choses, eh bien, de la jalousie, disons-le, et de la haine. L'amour, le service pour Dieu, accompli avec zèle, peut parfois produire de telles réactions. Des accusations, du mépris, des calomnies, comment ne pas voir dans le psaume 69 aussi une allusion aux croyants de tous les temps, qui ont été persécutés, qui sont brimés, qui sont faussement accusés à cause de leur foi, qui sont maltraités, qui vont être humiliés, qui vont être arrachés, qui vont être tués à leur famille, des généalogies qui vont s'éteindre parce que d'autres ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'ils respirent la paix, parce qu'ils respirent la joie, parce qu'il y a quelque chose de différent dans leur vie, parce qu'ils adorent un Christ crucifié et ressuscité. Et ils ont de la haine, et quelque part il y a de la jalousie là-dedans, il y a quelque chose que eux n'ont pas. Et comment ne pas voir effectivement, à travers cela, effectivement, hein, comme je disais, une allusion aussi à tous ces croyants qui, à travers l'histoire de l'Église, et aujourd'hui, continuent d'être persécutés à cause de leur engagement pour Dieu. De la part de croyants, mais aussi, comme nous le savons, de la part de personnes de tous bords et qui ne sont pas forcément croyantes, ou alors qui appartiennent à d'autres croyances, qui ont d'autres croyances, autre conception spirituelle, et qui vont faire preuve d'intolérance et de méchanceté. Alors j'aimerais terminer et proposer quelques pistes à la question que j'ai posée tout à l'heure en introduction, en suivant de manière cursive un petit peu la lecture de ce psaume. Comment réagir face aux fausses accusations? Déjà, simplement nous laisser une question personnelle. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes accusés à tort? Comment David a-t-il réagi? Comment le psalmiste ou les psalmistes s'y prennent-ils en pareille situation? Le programme de David nous est décrit dans les versets 14 à 34. David ne va pas chercher à se justifier, à se défendre auprès de ses accusateurs. Vous avez remarqué? Il ne va pas dire, venez ici, on va s'asseoir, on va fournir les preuves nécessaires, et puis on va la palabrer, on va discuter. On va essayer de régler les choses. Je ne dis pas qu'une telle démarche n'est pas utile. Elle peut être utile. Mais là, la situation est beaucoup trop grave pour prendre en considération cette manière de procéder. Pourquoi? Parce que ses accusateurs l'ont jugé, ils l'ont condamné. D'un point de vue purement humain, il n'y a plus grand-chose à faire parce qu'il se trouve, je le dis et je le redis, dans une voie sans issue. Il est la risée de tous. Autrement dit, tout le monde se fout de ça. Hein ? La solution doit venir d'ailleurs. Puisqu'à la base, le problème est spirituel, il faut donc appliquer une solution spirituelle. Et le programme du psalmiste est simple. Peut-être que pour nous autres, aujourd'hui, il est trop simple. À mon avis, pour l'occidental, pour le bon français, c'est un programme beaucoup trop simple. Et si nous proposions à quelqu'un ce programme-là, ils vont nous dire, mais écoute, tu te moques de moi. Tu n'as rien d'autre à me proposer. Le programme que David propose ici, c'est tout simplement, il tient en un mot, prie. La prière est le moyen qui va redonner espoir à notre homme. Dans sa prière, nous voyons quatre éléments sur lesquels David va s'appuyer. Alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, ce passage a été écrit il y a 3000 ans. Et à l'époque, il ne disposait pas de tous les outils que nous disposons aujourd'hui. Mais parfois, je me pose la question. Avec tous les outils dont nous disposons aujourd'hui au niveau des sciences humaines, que ce soit la psychologie, la psychanalyse et tout le reste, hein, sommes-nous pour autant plus heureux? Sommes-nous pour autant plus épanouis? Y a-t-il pour autant moins de conflits? Y a-t-il pour autant moins d'accusations? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, au vu de ce qu'on peut voir dans les relations les uns avec les autres. Dans sa prière, donc, il y a quatre éléments sur lesquels David va s'appuyer. Et j'aimerais nous encourager ce matin et vous encourager lorsque nous aussi nous sommes accusés faussement, eh bien, à nous appuyer sur ces quatre éléments qui sont mentionnés ici. Premier élément, David rappelle d'abord à Dieu sa situation dans les versets 14 et suivants. Il va rappeler à Dieu sa situation. Et d'ailleurs, les versets 14 à 17, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure en les lisant, eh bien, sont exactement parallèles aux versets pratiquement 1 à 6. Hein. C'est ce qu'on appelle en hébreu une sorte de chiasme, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est décrite, après on va la retrouver un petit peu plus loin, on va retrouver exactement les mêmes éléments. Donc David va rappeler à Dieu sa situation. Alors que lui dit-il ? Il y va fort, hein, il dit à Dieu, « Arrache-moi de la boue, que je sois arraché à ceux qui me détestent, que je sois arraché des eaux profondes, que le puits ne referme pas sa gueule sur moi. » Et là, peut-être pense-t-il ou pouvons-nous penser effectivement à ce puits qui était fermé généralement par une grosse pierre. Et une fois que la pierre était mise sur le puits, eh bien c'était terminé, c'était pratiquement le noir complet, la personne allait périr. Alors que ce soit vrai ou alors que ce soit au figuré, le résultat est le même. Il est en train de couler, il n'en peut plus, c'est terminé pour lui. Donc David supplie Dieu de venir le délivrer, de ne pas le laisser dans sa détresse, dans sa citerne. Et nous voyons souvent des hommes de Dieu dans les psaumes rappeler à Dieu leur situation. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de rappeler notre situation à Dieu ? Ne le sait-il pas ? Moi, je trouve que nous autres, et je me mets dans le lot, chrétiens occidentaux, nous sommes parfois un peu blasés. Nous pensons que Dieu est capable de tout. Amen. Nous pensons que Dieu est capable de tout, mais lorsque nous prions, et lorsque nous nous adressons à lui comme s'il était capable de peu, voire s'il était capable de rien du tout. Où sont les hommes qui vont manifester et les femmes qui, lorsqu'ils prient, qui se trouvent dans la détresse, eh bien, vont épancher leur cœur devant Dieu ? Nous manifestons parfois peu d'emphase, peu d'émotion. Peut-être laissons-nous de côté notre humanité, cherchons-nous à faire devant Dieu une belle prière. Le psalmiste ici est en train d'haranguer Dieu, il est en train de l'interpeller, ce qu'il dit est fort. Il lui dit, il lui commande presque, c'est un impératif, interviens. Fais quelque chose. Je suis en train de couler. Bien sûr, Dieu sait ce qui se passe. Mais Dieu, je crois, à travers cela, en tout cas, nous le voyons à travers la manière de vivre la foi des psalmistes, et en l'occurrence ici de David, Dieu veut que ses enfants lui fassent part de leurs besoins, de leur détresse, du fait qu'ils sont coincés. Et vous l'avez remarqué. Et je l'ai remarqué aussi dans ma vie personnelle, c'est lorsque nous sommes acculés, c'est lorsque nous sommes dans une citerne, que nous soyons faussement accusés ou non, mais quand nous sommes au fond du trou et que nous n'en pouvons plus, et c'est là que tout d'un coup, eh bien, que nous sommes submergés comme David l'était, que ce soit au sens propre ou alors au sens figuré, que nous adressons à Dieu nos plus belles prières. Que là, c'est tout d'un coup notre cœur qui parle, parce que nous sommes perdus. Et tant que nous ne sommes pas perdus, c'est pas forcément, bien sûr notre cœur va parler, mais là c'est le fond de notre cœur qui parle à Dieu. Là nous disons à Dieu, écoute, je n'en peux plus dans cette situation. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu interviennes. C'est là où nous commençons à sortir ce qu'il y a de plus profond au fond de nous. Et où nous allons dire à Dieu, comme David a dit à Dieu, c'est maintenant le temps favorable. C'est pas dans 6 mois. Dans 6 mois je serai peut-être plus là. Enfin, c'est ce que je pense, vu la situation actuelle dans laquelle je suis. Vous comprenez ? Il rappelle à Dieu sa situation. Rappelez à Dieu dans vos prières votre situation. Dites-lui, voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce qu'on a dit sur moi, voilà ce qui se passe, voilà ma souffrance, je te la dis. Le simple fait de pouvoir dire la chose à Dieu déjà nous fait du bien et nous savons que Dieu aussi nous entend. Et Dieu regarde notre cœur. Quelque part, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi qui va se manifester au travers de ce que nous sommes en train de rappeler à Dieu. Deuxième élément de sa prière, le psalmiste rappelle à Dieu qui il est. David n'avait pas toute la révélation de Dieu que nous avons. Mais néanmoins, c'est étonnant de voir combien sa connaissance de Dieu était profonde. Au verset 4, il l'appelle comment ? Mon Dieu. Ce qui souligne qu'il y avait une connaissance du cœur, puisque c'est là le sens du mot hébreu. La connaissance n'est pas simplement intellectuelle, la connaissance est relationnelle, elle est de l'ordre du vécu. Ensuite, au verset 7, il l'appelle le Seigneur des armées. Ou alors, comme le proposent d'autres traductions, c'est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Il savait que Dieu est capable de tout et par conséquent qu'il pouvait agir dans sa situation. C'est pour ça que dans sa situation où il est dans une voie sans issue, il l'appelle El Shaddai. Et puis ensuite, il va l'appeler au verset 7, à la fin du verset 7, il va l'appeler le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, une autre manière de s'adresser à lui. C'est le Dieu qui s'inscrit dans l'histoire. C'est le Dieu qui a agi déjà pour son peuple auparavant. Et par conséquent, il a agi pour son peuple. Eh bien, le Dieu d'Israël est aussi son Dieu et il va aussi agir pour lui. Et puis, c'est surtout dans les versets 14 et 17 que David met en avant à deux reprises quelque chose de fort dans ce psaume, c'est-à-dire la fidélité de Dieu. Et il va qualifier de quelle manière cette fidélité ? Il va la qualifier en disant que la fidélité de Dieu est grande. Et que la fidélité de Dieu est bonne. Imaginez dire cela dans la situation dans laquelle il est. Oh, s'il est dans une citerne, au sens propre, ou alors au sens figuré, dire, Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité est bonne. Il reconnaît par là qu'il y soit pour quelque chose ou qu'il n'y soit pour rien, ce qui est apparemment le cas, eh bien, je suis faussement accusé. Mais Dieu, tu es et tu restes fidèle. Et aujourd'hui, je crie à toi du fond de ma détresse et je te dis quoi dans ma prière ? Je te dis, Dieu, tu es fidèle. Quoi qu'il arrive, tu es et tu restes ce Dieu fidèle. Nous ne sommes pas toujours fidèles et David le montre aussi dans ce psaume puisqu'il reconnaît aussi qu'il a des torts. Mais malgré nos fautes, nos erreurs, nos égarements, Dieu est fondamentalement bon et reste fidèle à lui-même. Et il reste fidèle à lui-même, pourquoi ? Parce que la fidélité de Dieu ne repose pas sur nous-mêmes, elle repose sur ses promesses et elle repose sur le sang que le Christ a conclu à la croix, hein, que le Christ pardon, a versé à la croix il y a 2000 ans, sur l'alliance que Dieu a conclue au travers du Christ avec nous, avec ses enfants. Troisième élément de la prière, David demande des châtiments sur ses ennemis. Vous l'avez remarqué ça ? Ça c'est la meilleure partie du psaume. Hein ? Non, 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 hey, on est des chrétiens. Hein ? Oh. On va vite effacer ça hein, de notre Bible. Là. Comment est-ce qu'il peut dire cela ? C'est étonnant pour nous autres aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il demande des châtiments. Qu'est-ce qu'il leur demande ? Il dit que leur table devienne un piège. Et certainement qu'il fait référence ici au repas qu'ils devaient manger ensemble. Dans ce repas, certains pensent qu'effectivement, il avait même empoisonné la part de David pour voir s'il tiendrait ou non. Et s'il ne tient pas, c'est une preuve qu'il est effectivement coupable dans cette histoire. Parole qui va être reprise ensuite par le Christ lorsqu'il sera à la croix et qu'on voudra lui donner effectivement du vinaigre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque je prends une lecture première, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel ça a été écrit. Il va dire ensuite « impute leur faute sur faute ». Il leur demande plus de justice. Et il va même demander quoi il va même demander qu'ils soient effacés du livre de vie. C'est fort. Alors attention, quand nous lisons ici qu'ils soient effacés du livre de vie, il ne s'agit pas qu'il n'ait pas la vie éternelle. Parce que c'est une pensée qui n'était pas encore, à mon avis, dans l'esprit de David. À moins que vraiment l'Esprit de Dieu lui avait déjà révélé beaucoup de choses, ce qui est tout à fait possible. Mais à ce stade de la révélation, ça n'existe pas. Lorsqu'il dit qu'il ne soit plus écrit dans le livre de vie, ça veut dire, autrement dit, qu'il soit mort, que ce soit terminé. Le concept, la notion de vie éternelle telle que nous la connaissons dans le Nouveau Testament est quelque chose qui n'était pas encore présent de cette manière-là à l'époque. Hein, dans l'Ancien Testament, il y avait une espérance qui était là, mais c'était beaucoup plus vague et diffus, ce n'était pas aussi précis que ce que nous avons aujourd'hui. Donc David est en train de souhaiter des châtiments à ses ennemis, et des châtiments qui concernent vraiment leur vie personnelle. Qu'il ne voit plus, que tout aille de travers, qu'il n'ait plus de justice, faute sur faute, et finalement qu'il soit entièrement et littéralement détruit. C'est dur lorsqu'on lit de tels propos, mais on peut les comprendre. Nous-mêmes, lorsque nous sommes accusés à tort, calomniés, raillés injustement, qui plus est par des frères ou par des sœurs, que se passe-t-il ? Il y a aussi parfois de drôles de sentiments qui apparaissent dans notre cœur, n'est-ce pas ? Hein ? les sentiments, heureusement que nos pensées ne s'affichent pas sur un grand écran au-dessus de nous. Mais parfois, ces pensées peuvent transparaître au travers de certaines actions, au travers de certaines intonations, au travers de certaines paroles que nous allons prononcer. Et c'est normal. C'est normal que dans un premier temps, peut-être, ces choses rejaillissent du fond de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous restons, même si nous sommes pardonnés, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous restons des hommes, nous restons des femmes. Et nous avons en nous un fort sentiment de justice. Et lorsque nous sommes victimes d'une injustice, qui plus est de quelque chose qui est vraiment fondé, qui est réel, nous ne supportons pas ce genre de choses. Mais l'erreur, c'est d'en rester là. L'erreur, c'est d'en rester là parce que nous avons, contrairement à David et contrairement aux psalmistes de l'Ancien Testament, nous avons un plus. Et le plus que nous avons, c'est justement le plus en forme de croix. C'est-à-dire, nous avons la croix du Christ. Et la croix du Christ qui représente un réel plus dans notre vie. Parce que notre maître, le Christ, nous montre le chemin qu'il a choisi. Alors qu'il était faussement accusé, il choisit d'aimer. Alors qu'il est faussement accusé, il choisit de manière totalement incompréhensible et illogique d'un point de vue humain de pardonner, de ne pas avoir du ressentiment, de ne pas avoir de la rancune, de ne pas se plaindre, de ne pas dire « Eh bien, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal, tu te rencontres, moi je suis le Fils de Dieu, je suis parfait, eux ils sont pécheurs, regarde comment ils se... » Non, absolument pas. Nous ne retrouvons pas ce discours chez la personne du Christ. Et c'est le chemin que nous sommes appelés à prendre, à emprunter. Alors, j'en conviens, c'est très facile d'en parler, c'est très difficile de le vivre. Et peut-être que dans un premier temps, effectivement, il peut être bon de laisser monter certaines pensées, de pouvoir les exprimer. Et puis après, il peut être bon de dire à Dieu dans notre prière, « Eh bien, viens à mon aide. Tu vois ces sentiments ? Tu vois ce que je leur souhaite ? Tu vois que je leur souhaiterais la même chose que David, qu'ils n'existent plus, que leur nom soit effacé du livre de vie ? Mais je sais que ce n'est pas bien. Mais viens créer en moi les fruits de l'esprit, les sentiments qui étaient en toi, donne-les-moi, accorde-les-moi, afin que je puisse, eh bien, aimer et agir différemment. » Quelqu'un devrait dire « Amen ». Quatrième et dernier élément, et je conclue avec cela, j'en ai pour quelques minutes encore de sa prière, verset 30 et suivante. Ah mais le psaume est long, je suis désolé, hein. 37 versets, hein. Et encore, je vous épargne pas mal de choses. Hein. La louange à Dieu. David termine ce psaume avec une louange. Est-ce qu'il a reçu sa délivrance ? Certains pensent que oui, mais apparemment, il n'a pas encore reçu sa délivrance au moment où il écrit. Enfin, certainement qu'il a écrit ce psaume après sa délivrance. Hein. Mais il loue Dieu et dans l'espoir de son intervention qui ne saurait tarder, il le remercie et il le remerciera aussi par la suite. Et il précise quelque chose de très important, que ce qui plaît à Dieu dans pareilles circonstances, lorsque nous sommes accusés, c'est effectivement de louer Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, lorsqu'on avait une délivrance qui venait dans notre vie, contrairement à nous, où parfois aujourd'hui nous oublions un petit peu ce que Dieu a fait, bien que pour certains on va le dire, mais dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu était intervenu en notre faveur, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait offrir un sacrifice. Et puis ici, il parle d'un sacrifice qui coûte vraiment des sous, qui coûte beaucoup d'argent, parce qu'il parle d'un bœuf ou il parle d'un taureau. Donc c'était un animal qui devait avoir 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans, donc un animal qui coûtait cher. Et ça coûtait d'offrir un tel sacrifice. Mais ça, c'était un grand sacrifice de reconnaissance, parce qu'on avait vécu une grande délivrance. Mais même déjà à ce stade de la révélation, alors que David est encore dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, pour s'approcher de Dieu, il faut faire des sacrifices, il va dire « mais ce n'est pas ça qui compte ». Ce qui compte, c'est d'offrir la louange, je paraphrase, qui vient du cœur. Déjà, il avait compris certainement, grâce à l'action du Saint-Esprit, que ce que Dieu met en avant, c'est l'attitude du cœur. Et effectivement, lorsque Dieu vient à notre secours, et que Dieu vient nous chercher, et que nous savons qu'il va intervenir, nous pouvons déjà commencer à le louer et à le remercier. La louange est donc une des clés qui est mentionnée dans ce psaume. Je conclus en disant ceci. Ce psaume ne dit pas comment Dieu ou si Dieu va réparer l'injustice, les fausses accusations, et il n'en parle absolument pas. Il n'est pas question de la justice rétributive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va les punir à cause de ça, même si le psalmiste l'a demandé. Le psaume ne répond pas à ce genre de questions. Et voyez-vous, il y a bien des injustices que nous vivons dans notre vie, bien des moments où nous sommes faussement accusés, où des frères et des sœurs sont faussement accusés, et il n'y aura jamais de réparation. Il n'y aura jamais des choses qui vont être réglées. Parce que l'homme est mauvais, parce que l'homme est pécheur et parce que l'homme va passer sous silence ces choses-là. Nous savons qu'un jour, bien sûr, les comptes vont être, les livres seront ouverts et Dieu va faire ses comptes. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait qu'il y aura un jour la justice. Mais en attendant, sur terre, il y a parfois des situations de grandes injustices. Mais malgré cela, et c'est là la note positive de tout ce psaume qui commence d'abord par quelque chose de très sombre, de très noir. Je suis au fond du gouffre et ça termine avec quelque chose de beaucoup plus positif. Louez le Dieu, le cieux terre, etc. Et là, ça éclate même vers une louange collective que le peuple d'Israël a repris face à toutes sortes d'accusations et d'injustices qu'ils ont pu vivre. Et en même temps, ça peut être personnel. Ce qui est bon de savoir, c'est que face aux fausses accusations, Dieu est vivant. Dieu agit et nous pouvons nous adresser à lui au travers de la prière telle que nous l'avons vue. Et surtout, ce qui est important, c'est que Dieu vient dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre concret. Il vient à notre secours. Amen. Nous prions. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de nous avoir donné ces psaumes et en particulier le psaume 69. Seigneur, combien de fois nous aussi, de manière moindre ou parfois tout aussi dur, voire même plus dur pour certains d'entre nous, nous avons été confrontés à des injustices, à de fausses accusations. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit notre conjoint, que ce soit peut-être la société ou l'association ou alors l'église dans laquelle nous sommes, et cela peut nous faire mal. Et nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu nous montres une voie que David, que ce psalmiste a empruntée, celle de prier, celle de s'adresser à toi. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu es le Dieu qui intervient dans l'histoire. Tu as agi, Seigneur, pour David il y a 3000 ans, tu agis aussi pour nous aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui sont victimes d'injustice, tous ceux, Seigneur, qui ont été blessés, tous ceux qui ont été accusés, nous sommes pécheurs, nous le savons, Seigneur, et nous nous humilions de cela, mais tous ceux qui ont été accusés, Seigneur, puissent trouver auprès de toi le réconfort, puissent sortir la tête de l'eau et puissent dire aussi « Dieu est mon secours ». Dieu a entendu ma prière, Dieu est intervenu. Merci Seigneur. Amen.